Question d'Islam par Ghalib Bensheir. Aujourd'hui, nous parlons de foi, de raison, de philosophie, d'approche rationnelle des considérations dans lesquelles les contextes islamiques se trouvent, avec Drisk Sikes. Drisk Sikes, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation. Vous êtes écrivain, dramaturge, directeur du Centre de Recherche Economia et vous vous intéressez aussi tout particulièrement aux liens, aux interactions entre médias et la culture d'une manière générale. Et là, vous nous parlez d'une manière romancée, mais à peine romancée, avec un va-et-vient dans l'histoire entre le XIIe siècle et le XXIe, à travers la figure d'Averroès et de certains de ses admirateurs et de ses continuateurs par-delà le temps, dans un ouvrage intitulé justement « Au détroit d'Averroès ». D'ailleurs, la notion même du détroit d'Averroès, c'était une requête pour rebaptiser le détroit des colonnes d'Hercule, qui finalement depuis 711 portera le nom de Tariq, Gibraltar. Et c'est quoi cette demande finalement du roi, d'un souverain marocain saadien?
Alors, vous savez, quand on écrit de la littérature, on est moins tenu par la véracité que par la plausibilité. Ça, c'est une requête, c'est une construction, hein, parce que l'université d'Oxford, à l'époque, considérait Averroès comme l'une des figures majeures de la philosophie médiévale. Et la chose qu'on sait, c'est que le sultan saadien avait demandé à l'Angleterre de le soutenir dans l'invasion de l'Espagne. Ça, c'est un fait historique existant. Le fait fabriqué dans le livre...
La réponse était un peu diplomatique. On n'avait pas accédé à son désir.
Tout à fait. Mais il voulait concurrencer les Ottomans par sur le flanc ouest. Mais par contre, cette requête-là, qui est une fabrication littéraire tout à fait plausible, c'est de nommer ce détroit du nom d'Averroès... qui aurait voulu... Enfin, c'est une métaphore. C'est une métaphore de... Est-ce que nous aurions pu créer un pont par le savoir plutôt qu'un pont par la guerre? Parce que le nom du guerrier que porte le détroit souligne beaucoup plus la tension entre les deux rives plutôt que le lien par le savoir.
C'est un... Si vous me pardonnez le parallèle, votre ouvrage est une forme de docu-fiction, comme on le dirait pour le cinéma, c'est-à-dire que sur des faits réels, des faits historiques, sur un matériau attesté par l'historiographie, vous romancez l'ensemble pour présenter une trame dont le temps, c'est le 21e siècle et le lieu, c'est l'Afrique du Nord, c'est le royaume du Maroc particulièrement, à travers un héros, Adib. Pourquoi Adib? Parce que déjà le nom, c'est le gentilhomme, c'est l'humaniste, c'est le prosateur, c'est le polygraphe, c'est l'érudit.
Tout à fait, c'est un nom, vous savez, il y a aussi ce texte de Taha Hussein qui porte ce titre de Adib. Et en même temps, le adab dans la tradition littéraire est celui de l'érudit, de l'humaniste. Et en même temps, moi je ne suis pas intéressé pour faire une sorte de roman historique. Je suis plus intéressé, d'ailleurs je le mets au début du texte, au seuil du texte, je mets cette citation de Walter Benjamin sur le concept d'histoire où il dit « Il s'agit de retenir l'image du passé qui s'offre inopinément au sujet historique à l'instant du danger ». Je crois que c'est important parfois de revenir à l'histoire pour mieux comprendre les enjeux du présent et vers où nous allons. Et donc, ce qui m'intéressait beaucoup plus que de raconter l'histoire d'Ibn Rushd ou une biographie d'Ibn Rushd, ça a été fait par plusieurs et qui ont beaucoup plus de magistère que moi sur ce sujet. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus la question de qu'est-ce qui reste? Quel est l'écho de cette pensée rationaliste aujourd'hui? Et donc, Adib, est un prof de philo dans un lycée périphérique de Casablanca et en même temps chroniqueur à la radio. Il essaie d'être le transmetteur d'une pensée philosophique musulmane. Il fait des chroniques sur Al-Farabi, sur Avicenne, sur Ibn Pass, Ibn Bajjah, etc. Et Averroès, il a laissé ça pour plus tard parce qu'il a toujours considéré que c'était un gros morceau. Et en même temps, parce qu'il avait reçu un legs. Alors là, ça nous replonge dans l'histoire récente du Maroc. C'est que sous Hassan II, quand même, il y a eu un coup de frein à l'enseignement de la philosophie. Et son mentor, Hassan...
Et vous dites que ça a été remplacé plutôt par l'enseignement des sciences dites islamiques.
Tout à fait, des études islamiques dont la majorité des universités qui se sont créées, on n'a plus créé de département de philo, on a plus favorisé l'éducation islamique. C'était dans le cadre de la lutte contre les marxistes et donc contre la gauche, etc. Vous connaissez l'histoire. Mais ce qui est intéressant, d'un point de vue littéraire, c'était intéressant d'avoir ce personnage de Hassan, prof de philo, chassé de l'enseignement pour athéisme, qui laisse des notes inédites sur Ibn Rushd. Sur le 12e siècle. Adib va en faire le matériau de ses chroniques radio.
Alors, on parle de ce personnage, Adib, mais en réalité, le narrateur, c'est quelqu'un qui lui voue une admiration réelle. Et sa relation avec Averroès, vous avez dit par moment Ibn Rushd, donc l'appellation arabe, l'intrigue très tôt, enfant, asthmatique, dans un hôpital, que l'hôpital éponyme. En arabe, c'est écrit Ibn Rushd, il lit l'arabe, et en français, c'est latinisé en Averroès.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de comprendre comment on peut regarder Averroès de là où j'écris, de mon pays, parce que il faut le savoir. Averroès est mort en 1198. Ibn Rushd est mort en 1198. Il est mort à Marrakech. Il a été enterré pendant 3 mois à Marrakech. Son corps a été déterré, ses manuscrits transportés à Cordoue. Et donc, il y a quelque part l'image d'une figure de la rationalité perdue, transportée ailleurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que ce tombeau-là est celui où gît aujourd'hui Abou l'Abbas Sebti, qui est une figure de la sainteté mystique. Et en fait, c'est quasiment un moment métaphorique du remplacement de la philosophie par la mystique en terre marocaine. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué, oui. Et j'avais envie de travailler à partir de cette perte-là.
Vous avez anticipé une de mes questions, mais je vous la pose tout de suite. C'est que le héros va interroger le gardien de la nécropole, un homme âgé, aveugle. Donc sa cécité ne préfigure pas que c'est qu'il a des connaissances, et donc il interroge sur le tombeau, le mausolée même, d'Averroès, et que lui répond-il ?
Écoutez, je pense que je ne saurais redire ce que j'ai écrit dans la bouche de Balel, parce que c'est une figure de conteur, et le conteur de Jamel Fna est un homme qui a une sorte de
parce qu'on est à Marrakech, bien entendu.
On est à Marrakech, et au fait... Adib, quand il était encore élève, il part à Marrakech sous le regard de Hassan. Hein, il part en quête de ce tombeau originel et il rencontre cet homme aveugle qui, il faut le savoir, c'est un mausolée de Abou l'Abbas Sebti. C'était le saint des mendiants, des non-voyants. Et donc là, il retrouve ce monsieur. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il lui dit ? Et je voudrais le citer comme ça. Ça permet de voir. Alors, écoute, mon fils. Averroès, là-bas, on n'a pas cessé de l'enterrer. Mais il a toujours réussi à renaître de ses cendres, comme on dit. Ici, Ibn Rushd, on l'a déterré pour de bon. Tu n'en trouveras plus jamais la trace, même en fumée.
Revenons donc un peu à la chronologie, à la trame. Le narrateur... Et dans cet hôpital, il essaye de comprendre d'abord la résonance qui c'est ce Ibn Rushd en arabe, qui c'est cet Averroès. Et c'est comme ça que sa première relation, son premier lien sa première découverte se fait avec le maître andalou.
Oui, je vais vous lire un passage aussi parce que c'est le texte parfois a peut-être plus de résonance. Il commence en disant Ibn Rushd, Averroès. Les deux noms dans cet ordre-là, deux noms superposés, ils indiquaient deux directions, deux rives, deux langues, deux temps, et un même homme. Mais est-ce vraiment le même? Deux noms pour une même inconnue. Les noms propres, nous apprenait-on à l'école, ne se traduisent pas. On en transcrit le son. Le sien faisait visiblement exception, un peu comme les cycles calendaires, les noms de moi que fixait au début de séance M. Halim l'air chantonnant sur le tableau noir. Ibn Rushd, la bifurcation de ma conscience s'opérait très tôt dans cette datation bilingue, aux deux sens opposés. Un nom pour l'éveil de la lumière et un autre pour l'éclat de l'énergie. Ibn Rushd et Averroès sont peut-être les deux faces d'un astre perdu. Donc ce sont des pérégrinations de mémoire d'un jeune qui essayait de comprendre comment dans un hôpital où on avait les deux noms, mais ce n'était pas le nom n'était pas transcrit dans l'autre langue, c'était un autre nom. En fait, c'est important de comprendre qu'Ibn Rushd, son nom devient Averroès 20 ans après sa mort à l'université de Paris et que il est important aussi de savoir qu'au-delà du nom, ce qui est important de savoir, c'est que quand Ibn Rushd meurt, il laisse 108 textes. On a 58 qui restent, qui sont disponibles en arabe. 50 autres sont transcrits en lettres hébraïques, non pas traduits, mais transcrits en lettres hébraïques. C'est 20 ans plus tard que, à partir de l'université de Paris, plus tard l'université de Padoue, de Rome, d'Oxford, on va faire d'Averroès une figure centrale de la philosophie médiévale en Europe.
Oui, le corps de doctrine qu'est l'averroïsme prévalait en Europe et notamment en Europe occidentale, que l'on fût pour comme le maître de Brabant Sigeur ou que l'on fût contre comme l'Aquinat Saint Thomas ou Albert le Grand, on parlait, on débattait des thèses averroïstes.
Tout à fait. D'ailleurs, Ernest Renan au XIXe siècle, il le réhabilite à moitié parce qu'il rappelle ce chaînon manquant entre la tradition gréco-romaine et la culture européenne, mais il ne le traite que comme commentateur d'Aristote. Il omet de le traiter comme un philosophe, comme un créateur de concepts sur la double vérité,
sur l'intellect,
sur l'ancienneté du monde, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si en Europe, il a été d'une certaine manière excommunié et d'une autre manière célébré, il a d'abord inspiré des philosophes. Il a inspiré Kant, Spinoza et d'autres. Mais en terre musulmane, c'est qu'en 19e siècle qu'on recommence à le traduire. On traduit essentiellement sur la métaphysique. Mais durant les siècles d'avant, Ibn Rushd continue d'exister, mais principalement par ses textes sur le fiqh, sur la loi et sur la médecine et quelques textes philosophiques. Mais les textes majeurs ne vont être retraduits qu'à partir du XIXe siècle.
Oui, dès 1859. Et ce qui est étonnant, c'est quelqu'un comme Mohamed Abdou, le grand cheikh d'Al-Azhar, connu comme recteur de cette université prestigieuse à la fin du XIXe siècle, ne l'avait pas lu.
Ce n'est pas uniquement qu'il ne l'a pas lu, mais quand le penseur maronite libanais Farah Antoun écrit sur Averroès et dit que nous avons été ingrats vis-à-vis de quelqu'un qui aurait pu être notre Erasmus, le précurseur d'une sorte prémoderne d'une pensée qui aurait pu nous affranchir, eh ben, qu'est-ce que lui répond Mohamed Abdou? Il lui dit, non, lui, il a été christianisé, latinisé, donc il ne fait plus partie de notre corpus en interne, on ne peut pas compter sur lui pour penser notre réforme de l'islam de l'intérieur.
Oui, et vous pensez que c'était aussi un moment raté une seconde fois? Je n'ose même pas dire deuxième fois, avec Averroès, non seulement sa disgrâce à la fin de sa vie, et là, au lieu de le réhabiliter, de le réactualiser et rajouter avec les autres apports philosophiques, on dit qu'il ne nous appartient plus.
Je pense que Averroès n'a jamais cessé d'être réenterré post-mortem. Il a été disgracié à la fin de sa vie. Après sa mort, sa pensée n'a pas percolé dans sa société. Mais ça, c'est une question politique. C'est les régimes politiques. C'est l'inexistence d'universités qui permet de perpétuer cette pensée considérée comme hérétique. Et, bien entendu, il y a ce moment de controverse entre Farah Antoun et Mohamed Abdo qui, à mon sens, a beaucoup joué parce que pendant 30-40 ans plus tard, la parole de Mohamed Abdo a pesé sur les consciences. Et donc, on ne recommence à déterrer Averroès d'une certaine manière que lorsque viennent les marxistes dans les années 50-60 pour le prendre de manière anachronique, comme une sorte de laïc avant l'heure ou d'un précurseur du matérialisme historique, d'une certaine manière.
Oui. Donc, revenons alors au narrateur. Et il découvre finalement que Averroès était aussi médecin. Donc, il y a un lien avec l'hôpital. Et plus petit à petit, lui-même grandit. Et il le retrouve dans les cours de philosophie.
Tout à fait, il le retrouve, et il le retrouve de manière un peu déstabilisante, parce que son enseignant à l'époque est un enseignant un peu plutôt conservateur, et il le traite comme un élément de patrimoine, de Tourat. Et oui. D'ailleurs, le narrateur fait ce lien entre Tourat et Tourab, poussière.
Ce sont des mots arabes un peu presque homonymes, l'un dit patrimoine, l'autre...
dit poussière. Et donc relique. Alors que Hassan, son mentor, lui disait « c'est une énergie fossile à rallumer ». Et c'est ça les deux filiations chez lui. Il y a une filiation qui est plutôt terne, de dire « c'est un élément du patrimoine à oublier ». Il y a cette filiation qui dit « c'est une énergie fossile à rallumer ».
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de rationalisme, de philosophie, de la redécouverte d'Anna Averroès qu'on n'a pas cessé d'enterrer et de déterrer avec l'écrivain dramaturge Drisk Sikes, qui est aussi directeur du Centre de recherche Economia. Et puis, c'est son domaine de recherche, ce sont les médias et la culture. Pour cette deuxième partie, Drisk Sikes, quand est-ce que se fait la rencontre entre le héros de ce roman ou de cette présentation à peine romancée d'une rencontre philosophique Quand est-ce que se fait la rencontre entre le narrateur et le héros Adib? Ça se fera à Cordoue?
Tout à fait, à Cordoue, parce que le narrateur est un traducteur, il est dans la cabine, il prépare une thèse sur les traductions d'Averroès. Il faut très important de savoir que Averroès a une destinée par la traduction et en même temps de transfert. Et donc, il le rencontre au moment où il est en train de traduire. Il l'écoute. Il l'avait connu comme élève autrefois. Il le retrouve à ce moment-là. Il est subjugué par la manière avec laquelle Adib a une relation passionnée, personnelle, avec une figure du passé. Et donc, lui qui était en train de faire une thèse sur la traduction qui assez distancée, etc., qu'il a redécouvert par Borges, etc., eh ben, il se retrouve avec autre chose, il se retrouve avec ce personnage habité par cette idée de redonner du sens, redonner écho à Averroès aujourd'hui dans sa contrée.
Surtout que l'homme, je parle d'Adib, est un orateur fougueux, passionné, volubile, éloquent, et habité par le verbe, il croit en ce magistère de la parole, et c'est ainsi qu'il restitue à Averroès, lors d'une sorte de colloque ou de rencontre, où il y a des érudits, il n'ose pas prendre la parole avec ses connaissances qui pour lui sont sinon rudimentaire, au moins pas à la mesure de l'érudition de ces savants.
Ben, vous savez, Averroès, comme prémoderne lui-même, disait il faut parler qu'aux initiés, hein, de la pensée rationnelle. D'une certaine manière, les averroïstes et les gens qui sont dans les rochdiyats aussi dans le monde arabe sont restés entre initiés.
Enfin, ils ont appliqué en gros la directive averroïste.
Tout à fait. Et lui, ben, il est en train d'aller dans le sens inverse. Il est en train de dire, ben, il est temps aujourd'hui qu'on parle aux masses de cela. Mais quand il se retrouve à Cordoue, parce que c'est effectivement, il y a eu pas mal de commémorations 8 siècles après sa mort d'Averroès partout et Cordoue principalement. Donc j'ai lu les actes de colloque de tout ça, mais c'est pas le plus important. Ce qui est intéressant, c'est qu'il retrouve une figure, Dr Brown, parmi ses érudits, qui sont eux vraiment dans des discussions de chapelle. Hein. Et ben il y a cette figure de Dr Brown, qui est une sorte d'orientaliste, mais un orientaliste éclairé et en même temps un orientaliste juste, qui dit le plus important n'est pas ce que nous comprenons d'Averroès autrefois, l'important c'est de savoir ce que vous allez faire du legs d'Averroès chez vous dans les pays musulmans.
Oui. Pour revenir à qui doit s'adresser le discours averroïste, je le dis sous votre contrôle, Trisk Sikes, en réalité, il distingue 3 catégories. Ceux qui sont sensibles à la démonstration, ceux qui sont sensibles à la dialectique et ceux qui sont sensibles à l'exhortation, ou si je devais utiliser le terme technique, à la parénèse. Un discours parénétique, c'est un discours exhortatif. Les premiers sont les savants et les philosophes. Les deuxièmes sont les théologiens et les casuistes. Et les troisièmes, c'est le reste du monde. Et là, Adib voudrait presque exploser, si je puis dire, ces catégories et présenter Averroès un peu d'une manière globale et générale à tout le monde au XXIe siècle.
Tout à fait. En fait, parce que même Averroès, il faut comprendre qu'il a les textes qui sont essentiellement dirigés aux savants, mais il a les textes dans lesquels il polémique avec les théologiens, dans lesquels il confond la pensée spéculative par la pensée rationnelle et la démonstration rationnelle. Et ça, c'est fondamental. Et au fait, ce que Adib fait, Hassan avant lui, c'est de dire, oui, mais maintenant, il faut exploser tout cela, parce que, pourquoi? Parce que cette idée de la double vérité, hein, c'est de dire que nous pouvons accéder à la vérité par la foi et par la charia, par la loi, ou par la démonstration rationnelle, est une voie. Cette possibilité des deux voies est quelque chose qui mérite aujourd'hui d'être entendu de manière un peu plus large parce qu'elle pourrait être le fondement d'un autre projet culturel. C'est ça la question centrale pour Adib et bien entendu ceci n'est pas suffisamment relayé. Lorsque il dit ceci, un de ses élèves en classe, il lui dit « Mais monsieur, vous êtes sûr qu'il était musulman ?» C'est cela qu'on entend aujourd'hui.
Oui. D'autant plus que le même Averroès dit que la vérité ne contredit pas la vérité, mais la campagne y témoigne pour elle.
Pour elle.
C'était dans le sillage de s'il devait y avoir une quelconque contradiction entre les données révélées et la démonstration philosophique, c'est à la révélation de céder le pas devant la philosophie, en quelque sorte.
Il a même considéré que nous pouvons mettre sur un pied d'égalité la prophétie et la parole d'Aristote et le legs d'Aristote, et qu'il n'y a pas à considérer que une pensée venant des Grecs pourrait être une pensée étrangère. Il considère que lorsqu'elle apporte quelque chose à la raison, que lorsqu'elle apporte quelque chose à l'entendement sur le monde, elle est la bienvenue.
Oui, d'autant plus qu'à ce moment-là, les anciens, la sagesse des anciens, c'était la sagesse des Grecs, et maintenant la compréhension de l'œuvre des pieux anciens se comprend dans son acception salafiste. C'est le mot même, le salaf, ce sont les anciens. Pour revenir au roman lui-même ou à la présentation, Adib, au moment où il s'apprêtait à aller à Cordoue via Madrid, il rencontre une ancienne condisciple, une camarade de classe, une certaine Aziza, qui est historienne. Elle est un peu dans la froideur de la présentation de l'histoire, le temps froid de l'histoire, comme on dit. Quel était l'intérêt pour vous, Driss Csikes, de les faire se rencontrer encore une fois?
Outre le fait que pour écrire du roman, il faut qu'il y ait la femme, et que je n'oublierai jamais ce que m'a dit mon ami et concitoyen et écrivain que je respecte énormément, Abdel Fattah Kilito, lorsque je lui ai dit que je m'apprêtais à écrire un roman sur Averroès, il m'a dit « Est-ce que tu as trouvé la femme ?» Et donc, oui, Aziza, outre le fait de ce côté du rapport entre eux et la nostalgie d'une rencontre quand ils étaient à la fac, c'est que c'est une historienne effectivement froide, mariée à un général, très introduite dans les cercles du pouvoir, avec cette idée que, en fait, elle relaie une idée qui existe, qui est très très présente. D'ailleurs, beaucoup de biographes qui ont voulu réduire Averroès à cela l'ont dit, c'est de dire que finalement, ce monsieur a servi un régime, a servi les Almohades qui étaient des gens qui voulaient ériger le rationalisme comme une idéologie de l'État, qu'il a eu un mécène qui était Abou Yaqub Youssef, donc le sultan savant, et que finalement, l'histoire s'est arrêtée lorsque il y a eu le sultan d'après qu'il a exilé, et il n'a pas pu avoir de disciples, et donc il n'a pas pu
céder à la, disons, aux sirènes de nos jours, on aurait dit islamistes,
en cédant aux sirènes des théologiens et aussi des familles qui étaient rivales à la sienne, qui était la famille des grands cadis de Séville et de Cordoue. Donc d'une certaine manière il a cédé à cela, et ben voilà, l'histoire est terminée. Après, c'est quelqu'un qui a... Averroès a plus servi la pensée européenne. C'est un Andalou, de toutes les façons. Donc pourquoi chercher aujourd'hui à en faire l'ancêtre d'une possible rationalité chez nous? Nous sommes sur une autre... Et donc là, elle est dans le dogme aussi d'une sorte d'État semi-autocratique qui essaie... plutôt de trouver la conciliation entre la tradition et la modernité, et qui ne voudrait pas aller trop loin par rapport à ce legs rationaliste.
Alors comment explique-t-elle, ou comment faites-vous pour lui faire expliquer l'idée que on dit que la dynastie Almohade était globalement une dynastie d'unitarien, c'est le mot même, oui. La signification, qui aurait du fondamentalisme, que par moments ils étaient fanatiques, et que cette dynastie a donné lieu à un homme éclairé, qui est Abou Yaqub Youssef, qui non seulement avait Ibn Tufayl à sa cour et comme médecin, celui-ci introduit Averroès, et qui était lui-même un fin lecteur d'Aristote, et qui avait envie que la pensée aristotélicienne soit à la portée du peuple.
Alors, Je pense que sur l'histoire des Almohades, il y a Ibn Tumert, le fondateur, avec une pensée fondamentaliste, etc. Et il y a les continuateurs de Ibn Tumert. Parmi eux, Abu Ya'qub Yusuf, effectivement, est un savant, un lettré. Il cherche à fonder le rationalisme. Le problème, c'est qu'il faut savoir que le rationalisme poussé à son extrême, lorsque il n'est pas conscient de ses limites, peut fonder une pensée intégriste. Parce que je pense que le lien, ce qui donne de l'humanité à la rationalité, c'est qu'elle comprenne la sensibilité. Je pense que il est important de savoir que l'idée de dire à Averroès de recommencer le commentaire, c'est parce que du côté de l'Orient, Avicenne et Al-Farabi ont cherché plus la conciliation avec la gnose orientale. Et que ici, il s'agissait plutôt de fonder une sorte de rationalisme pur. Eh ben, je pense qu'il est très très important de savoir qu'il y a une couche très très fine entre quand on pousse le rationalisme à son extrême et qu'on accepte l'extrémisme comme manière de gouverner. Mais Abu Ya'qub Yusuf n'a pas été le plus extrémiste de ces sultans-là, parce que il avait une connaissance de la science des anciens.
Oui. Et à ce sujet, permettez-moi simplement de revenir sur cette rencontre entre le grand métaphysicien Ibn Arabi, alors adolescent, et Averroès. Bon, c'est en autoréférence qu'Ibn Arabi le fait savoir, lorsqu'il plaidait plutôt pour les connaissances gnostiques et métaphysiques devant le grand Averroès, lorsqu'il lui dit, quand ils se rencontrent dans ce langage un peu énigmatique que je vous laisse peut-être présenter aux auditeurs, quand il lui dit oui et non. Alors, c'est très lapidaire et c'est énigmatique, c'est simplement en oui et non.
Oui et non. Alors, il est important, dans les explorations mécoises, dans les expéditions mécoises, le Futuhat al-Makkiya dans le texte d'Ibn
Arabi, les conquêtes spirituelles mécoises,
Ibn Arabi, d'abord, on ne sait pas qu'est-ce qui est de l'ordre de la mémoire, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'histoire, et qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme. Donc là, d'abord, on est dans une forme hybride, littéraire hybride. Hein.
Oui, du fantasme dans son sens premier. C'est-à-dire de l'imagination.
Donc, tout à fait. Et ce qui est important, effectivement, Ibn Arabi, on dit qu'Ibn Arabi a assisté à l'enterrement, il dit qu'il a assisté à l'enterrement de plutôt à l'accueil de la dépouille d'Ibn Rushd à Cordoue.
Et qui était la seconde fois, puisque après la première rencontre physique, il le voit comme ça. Je ne résiste pas à déclamer ces deux vers quand il dit à son ami qui était avec lui, en voyant le cortège funèbre, « Voilà le maître, voilà son œuvre, plus au ciel que ce qu'il nous a enseigné eût servi ou eût été utile. »
Tout à fait. Alors, bien entendu, Ibn Arabi, jeune, mais un jeune illuminé. Hein, un jeune illuminé face à un rationaliste à l'automne de sa vie, il dit qu'il y a eu cette rencontre et que, sur cette question de la révélation et de la raison, il dit qu'il a répondu en disant oui et non. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on retient ceci ou cela? Il dit on retient ceci et cela. Mais ça, c'est la parole d'Ibn Arabi. C'est la parole d'Ibn Arabi sur une sorte de doute d'Ibn Rushd, qu'en quoi il a voulu célébrer l'idée qu'on pourrait garder quand même une voie vers la spiritualité, tout en étant dans la rationalité. Ça, c'est l'interprétation d'Ibn Arabi. L'histoire retiendra que, effectivement, en terre musulmane, on a été plus dans cette conciliation que dans la rupture que a essayé de mettre en place Ibn Rushd. Et d'une certaine manière, on dit aussi que dans le texte d'Ibn Rushd d'Averroès, dans lequel il répond à Al-Ghazali, Tsahafut,
La réfutation de la réfutation
pour répondre à la réfutation des philosophes de Al-Ghazali. On dit que c'est Al-Ghazali qui historiquement a gagné d'une certaine manière. On a beaucoup plus retenu la nécessité de penser par la spiritualité et de ne pas céder uniquement au rationalisme.
Oui. Et pour revenir à cette fameuse rencontre, Ibn Arabi né en 1165, donc s'il a une quinzaine d'années, on est en gros vers 1180, et il dit, je me suis, l'histoire est beaucoup plus longue, mais on
Beaucoup
va
plus
la
long.
résumer.
Oui, on va.
Je me suis rendu chez le maître, il se lève pour m'accueillir, et il me regarde, il me dit oui, je lui dis oui.
Oui.
Après, je me ressaisis et je lui dis non. Là, il blêmit et j'avais ajouté, entre le oui et le non, les nuques se détachent de leur cou et quelque chose comme les corps se spiritualisent. Et là, Averroès tape des mains, répétant une formule connue, il n'y a de force et de puissance que par Dieu. Mais c'est Ibn Arabi qui
C'est Ibn
raconte ça.
Arabi qui raconte ça. Je ne saurais le répéter de mémoire comme vous, et je vous en remercie. Mais en même temps, c'est exactement un peu ce que vous retrouvez aussi dans le texte, parce que ce sont des choses qui existent dans les textes. Je ne voulais pas les répéter de la même manière. Ce qui m'intéressait, c'est aussi la tombe à Marrakech et Abou l'Abbès Sebti. Il faut savoir qu'Abou l'Abbès Sebti, au Maroc, est le Saint des Saints à Marrakech, et que c'est aussi la continuation par la spiritualité. Cette question n'a jamais cessé d'être posée, mais d'une certaine manière, on a tout le temps drapé le rationalisme d'Averroès par une pensée à partir de la centralité du mysticisme. Donc, est-ce que c'est parce que je crois qu'il y a une sorte de voile mystique par lequel on essaie de voir le rationalisme d'Ibn Rushd, parce que il est d'une certaine manière gênant, qu'il ait été le plus loin possible, parce que c'est un aristotélicien qui a été très très loin par rapport à la rationalité.
Il va y avoir aussi une rencontre avec la poésie dans son sens grec est une création. Donc, à côté de la rationalité et de la production philosophique, il va y avoir une création poétique. Et là, la présence aussi d'une figure féminine, c'est la fameuse Hafsa.
Oui, alors Hafsa Rokonia a existé historiquement. C'est une poétesse. Elle a écrit une poésie érotique extraordinaire. On l'appelait la poétesse aux deux amants. Et donc dans le texte, alors dans les chroniques de Hadib, il y a effectivement cette tentative de raconter des bribes d'histoire importantes, et entre autres cette relation d'Ibn Rushd avec la question de la femme, de l'égalité homme-femme, et cette rencontre avec la poésie à travers Hafsa. Hein? J'aimerais. Alors, restant sur la poésie, effectivement, la rencontre avec Hafsa est la rencontre avec une sensibilité à laquelle Averroès a été d'une certaine manière attentif, mais pas beaucoup. C'est vrai qu'il citait le Mutanabbi dans ses cours.
Le grand poète mort en 965, Al-Mutanabbi,
65,
celui qui s'est fait passer pour un prophète.
Exactement, celui qui s'est fait passer pour un poète, c'est son nom, et celui qui a été proche des Qarmates, donc cette tribu qui a prôné d'une certaine manière la liberté, qui a dit non à la polygamie, qui a dit non à plein de choses dans les traditions musulmanes, etc., etc. Donc il parle, je l'ai fait rencontrer. Il n'y a aucun document historique.
On n'est pas sûr,
On
hein.
n'est pas sûr qu'ils se soient rencontrés, mais ils ont vécu au même moment. Elle a été à Grenade, il était à Cordoue. Je l'ai fait rencontrer à Marrakech chez le sultan. Tous les deux ont effectivement été à Marrakech. Et donc, cette rencontre permettait de parler de poésie, mais parler aussi de la question de l'égalité homme-femme.
Oui, à ce sujet, Driss Xykès, le commentaire moyen de la République de Platon par Averroès, il le fait comme aristotélicien, parle de l'importance de l'éducation, notamment des filles, et qui doivent aller au gymnase pour les activités physiques, ce qui était précurseur d'une extraordinaire modernité. Et vous avez dans votre texte un passage qui met en avant l'importance de la femme, et comme on ne lui a pas accordé la possibilité de gérer les affaires de la cité, eh bien les États déclinent.
Tout à fait. Alors je vais citer Averroès. Il a donc écrit ceci. Dans les États musulmans, la capacité des femmes n'est pas reconnue car elles y sont prises seulement pour la procréation. Elles sont placées au service de leur mari et sont donc reléguées au travail de l'éducation des enfants et de l'allaitement. Mais cela annule leurs autres activités. Du fait que les femmes dans ces états ne sont tenues d'aucune vertu humaine, il arrive souvent qu'elles ressemblent à des plantes. Qu'elles soient un fardeau pour les hommes dans ces états est l'une des raisons de la pauvreté de ces mêmes états.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Drisk Sikes, écrivain, dramaturge, directeur du centre de recherche Economia, avec un intérêt particulier pour les médias et la culture. Et nous parlons de la rationalité, de la raison, de la foi, comment concilier les deux, sont-elles orthogonales comme certains disent, et puis la réception au XXIe siècle d'une pensée averroïste qu'il faut peut-être pas prendre telle quelle, mais la réactualiser à travers ce roman ou une présentation historique à peine romancée intitulée « Au détroit d'Averroès ». Pour cette dernière partie, Drisk Sikes, on dit que, et vous le confirmez, que Averroès n'a pas traduit ou n'a pas commenté directement la politique d'Aristote, mais quelque part c'était une sorte de commentaire sur le commentaire. Il y a le commentaire moyen de la République de Platon, mais pas directement l'œuvre aristotélicienne.
Je reviens d'abord à cette question de traduction. Il y a effectivement parfois une erreur qui est faite de croire que Averroès a traduit.
Hein. Lui ne traduit
ne
pas.
Ne traduit pas. Et d'ailleurs, dans le texte La quête d'Averroès de Borges sur la question de la tragédie et de la comédie, il faut comprendre que, repris par le panégyrique et la satire, il faut savoir que ça, c'est une traduction de Abou Bishr Metta, l'école de Bagdad, 9e, 10e siècle. Donc, ce que Ibn Rushd fait à l'époque, c'est qu'il prend les traductions faites par l'école de Bagdad pour pouvoir commenter les philosophes grecs. Donc, mais lorsqu'il cherche le livre de la politique d'Aristote, il ne trouve pas cette traduction. Et donc il se rabat sur la République de Platon, mais il la relit en aristotélicien. D'ailleurs, au lieu de parler de l'âme, comme le fait Platon, lui, il parle de la cité vertueuse. Donc, c'est une reconfiguration du texte à partir de cela. Donc, il est important de comprendre que sa quête de ce texte est importante, parce qu'elle vient à un moment où il commence à être désillusionné de la gestion de la cité par les Almohades. Abou Yaqub Youssef est mort, il prend conscience qu'il y a une sorte de corruption de l'État, et il essaie de prendre ce texte comme appui pour pouvoir, d'une certaine manière, penser. Il dit qu'un souverain un souverain vertueux ne suffit pas pour qu'il y ait cité vertueuse. Il faut qu'il y ait la conjonction de plusieurs éléments et de plusieurs acteurs vertueux dans une cité pour qu'elle le soit. Et ça, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, plusieurs historiographes, plusieurs philosophes l'attestent, est peut-être une des raisons de sa disgrâce en 1195.
Oui, alors d'aucuns disent que vers 1198, il aurait été plus ou moins réhabilité. On n'est pas tout à fait sûr de cela. Il mourra en décembre 1198. Il sera réinhumé une seconde fois à Cordoue en février 1199. Ça, ce sont les faits attestés historiquement pour Averroès lui-même. Mais pour le 21e siècle, si on revient à notre héros Adib, lui, il a une étudiante qui s'appelle Nadia. Il se trouve qu'elle est slameuse. Et elle a aussi une autre caractéristique, c'est qu'elle veut fonder ou elle crée le club des néo-mu'tazilites. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?
Alors, c'est très intéressant. Je voudrais raconter quelque chose qui m'a amené à écrire ce livre. Je côtoie Averroès depuis 20 ans. J'étais l'un des fondateurs des rencontres d'Averroès au Maroc, etc. Donc, j'ai un intérêt très, très particulier pour Averroès. Je n'ai jamais pensé que j'allais écrire un livre. Et lorsqu'on crée la Nuit des philosophes au Maroc, en 2014, je vois ces jeunes dans l'esplanade en train de discuter librement. Et de philosophie, de l'existence de Dieu, de plein de questions. Et je suis interloqué, je me dis, mais d'où sortent ces jeunes ? Et au fait, je me rends compte que ce qui se passe sur Internet, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, est en même temps producteur de fanatisme, producteur de pensées limitées, de figées, et en même temps, il est producteur d'une autre pensée possible. Et ce club de néo-mu'tazilites existe en ligne. Les mu'tazilites, il faut le rappeler, c'est cette école de mutakallima, des premiers de théologiens qui ont essayé d'être rationalistes, qui ont prôné le fait que nous pouvions donner la primauté à la raison par rapport au texte.
C'est une école du milieu du 8e siècle au milieu du 9e, en gros.
Exact. Qui va avoir une trajectoire d'un côté qui vont avoir une place politique d'un certain moment, et puis deuxième temps, qui vont être excommuniés et exclus. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les jeunes font feu de tout bois. Il ne s'agit pas de la primauté d'Averroès comme penseur auquel il s'accroche. Ils sont en train de faire une sorte de syncrétisme à partir duquel ils essaient de repenser comment ils peuvent être rationalistes, libres, affranchis dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de marginal. Mais probablement, c'est par les marges qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut advenir.
Oui, mais ce qui m'a intrigué, moi, personnellement, c'était l'idée que cette Nadia est une slameuse, elle est une jeune fille de 100 ans. Comment se fait-il qu'elle s'intéresse au mu'tazilisme pour créer un mouvement néo-mu'tazilite ?
Elle n'est pas la seule, ils sont un groupe. Ils ont commencé par créer un groupe qui s'appelle Nada.com.
Donc, Nahda étant renaissance, renouveau, réveil, résurrection.
Résurrection, et puis la Nahda, c'est le mouvement qui se crée à la fin du 19e, début du 20e siècle. Je précise que lorsque on a les mouvements de révolte en 2011 dans le monde arabe, l'une des figures qu'il ressuscite, c'est El-Kawakibi. Parce que dans la Renaissance, il y a en même temps cette idée de s'affranchir par la pensée et de s'affranchir politiquement. Les deux sont concomitants.
Surtout qu'Al-Kawakibi a parlé des caractéristiques du despotisme.
Du despotisme, exactement. Et donc, ce sont des jeunes qui transitent par la pensée de la Nahda pour chercher l'affranchissement politique. Ils passent par Al-Kawakibi. Mais en même temps, ils sont amenés à chercher l'origine de cet affranchissement de la pensée. Et par capillarité, ils arrivent au Mu'tazilite, ils arrivent à Ibn Rushd, etc. Ce n'est pas le parcours académique, ce n'est pas le parcours scolaire. C'est une sorte de pensée par contamination, par capillarité encore une fois.
Il y a une porosité, oui.
Voilà, une sorte de porosité qui les amène à chercher comment s'affranchir et chercher dans leur héritage.
Donc dans leur tourate finalement.
Dans leur tourate, mais un tourate qu'ils essaient de réhabiliter, qu'ils essaient de réinventer. Je rappelle Heidegger, l'idée de la modernité, c'est aussi la réinvention de la tradition. Ce n'est pas une opposition de l'opposition de la tradition et de la modernité, ce n'est pas uniquement un lien de suture, ce n'est pas des points de suture entre tradition et modernité, mais plutôt une réinvention de la tradition.
Donc réinvention de ce fameux tourat, ce fameux patrimoine, peut-être auquel il faut ajouter toute la séquence moment Descartes, moment Freud, qui a été ratée et qu'il faut savoir étudier, ingérer, assimiler, critiquer et dépasser.
Oui, ben je crois que l'une des questions majeures aujourd'hui qui nous est posée, c'est comment nous relisons l'histoire de ce qu'on appelle abusivement le Moyen-Âge et comment nous pensons aussi ce moment qui est venu après ce que Mohamed Harkoun a appelé la clôture dogmatique et ce qui s'est passé dans notre pays. Je pense qu'il n'y a pas eu que des choses sombres, parce que dans la tradition persane, on a continué à philosopher. Dans nos pays, même quelques fuqaha éclairés ont, d'une certaine manière, produit des éléments de pensée rationnelle. Nous avons aussi toute une tradition. Moi, j'aime bien ce livre de Ahmed Shahab, livre posthume « What is Islam ?», dans lequel, finalement, on dit « Mais pensons l'islam comme une civilisation plurielle, paradoxale, qui est traversée aussi bien par le rationalisme que par le mysticisme, que par la poésie érotique, que par l'éloge du vin, que par la théologie. » Et cessons de donner la primauté à la théologie comme quelque chose qui prime ou qui érige une règle à partir de la religion. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose de cette pluralité-là à redécouvrir, à relire.
Ici, vous parlez de l'islam avec I majuscule, donc l'ère A-I-R-E civilisationnelle sur une longue ère E-R-E.
C'est la seule qui m'importe en tant qu'écrivain, qui se situe quelque part et qui, en même temps, essaie d'être humaniste à partir de son histoire.
Merci infiniment, merci beaucoup, Driss Csikes. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir nous parler de rationalité, d'Averroès au XXIe siècle, de son actualité, qu'il faut savoir conjuguer avec d'autres apports. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est toujours Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Éric Boissé. Et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lilin. Thank you.